bonjour tout le monde et surtout une bonne année 2016, parce que nous sommes des gens de tradition, nous n'oublions pas de souhaiter les vœux de bonne année à nos lecteurs et à nos fidèles spectateurs. Je suis en compagnie d'Alexis.
Salut.
De Sylvain.
Salut.
De Jean-Marc.
Et salut.
Nous avons aussi Nicolas aux manettes comme d'habitude. Et je passe le bonjour à Pierre qui maintenant me doit une bière. Et aussi un grand coucou à un certain David qui est parti. Bon courage à toi. Je le disais, nous sommes des gens de tradition. Donc pour commencer l'année avec ce premier épisode de La Croix et le Stick, on s'est dit qu'on allait faire un...
Comme
quelque
tout
chose
le monde.
D'un petit peu, oui, comme tout le monde, voilà, c'est les traditions, c'est comme Noël, les guirlandes, tout ça. Un petit retour sur l'année qui s'est écoulée, à laquelle on a dit au revoir.
2015, je crois.
Ah bon ?
Ouais.
Je suis tellement à la bourre, moi.
Ah non, mais j'avais mis Yeti Sport dans mes jeux préférés de l'année dernière.
Alors, faux départ, on va refaire la liste parce qu'on s'est visiblement un peu gouré. Faut aussi qu'on refasse la liste de ce qu'on attend pour 2016, alors.
C'est ça.
Parce que moi j'avais mis la sortie de la prochaine console de Sony. Il paraît que Sony doit sortir une PlayStation.
Ah oui.
C'est une rumeur, hein,
mais
je suis pas sûr.
Oui, je crois aussi, ouais. Mais bon, on verra. C'est pas sûr encore.
On verra, bon. Donc 2015-2016. Ah merde. Bon, bah alors c'est parti. On va commencer en fait par revenir un petit peu sur ce qui s'est passé en 2015. Ouais. Si ça vous convient, et on va commencer par le mec qui est pas content. Tiens.
le mec qui n'a
la première chose à dire, c'est
J'ai rien aimé.
Et c'est pas moi.
Non, mais c'est vrai qu'en plus, en réfléchissant et quand on avait décidé de faire ce podcast, je me réfléchissais, je dis à quel jeu j'ai joué à cette année. Et je pense très sincèrement, enfin en 2015, ça doit être l'année où j'ai le moins joué, finalement, paradoxalement, parce qu'on aurait pu penser que j'avais plus de temps ou quoi que ce soit, mais en fait, pas du tout. Et finalement, comme dans les jeux, en tout cas dans les jeux vidéo, vraiment qui m'a marqué positivement, j'en garde pas vraiment, il n'y en a pas vraiment un qui sorte particulièrement du lot. Par contre, il y en a un qui m'a vraiment énormément déçu parce que j'étais vraiment fan de la série, notamment des deux premiers épisodes, donc c'est Train 3. Il y a le test sur le site qui m'avait vraiment 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 énormément déçu. J'en attendais beaucoup parce que finalement il y a eu quand même une attente assez longue entre le 2 et le 3, et le 2 m'avait laissé vraiment pantois en matière de tout de level design, de gameplay, de direction artistique, etc. Et c'est vrai que le 3, ils ont voulu aller un petit peu plus loin et intégrer une notion de profondeur dans le gameplay et tout, qui sur le papier était une bonne idée, mais au final c'était vraiment au détriment de tout le reste, c'était vraiment pour moi la grosse déception de cette année. Et en plus, malheureusement, j'ai bien peur que j'ai peur pour l'avenir du studio, parce que au final ils ont été quand même un peu refroidis par l'accueil du jeu par le public, et ils ont été honnêtes, hein, ils ont dit qu'ils ont mis vraiment presque toute leur bille dans Train 3, parce que justement le développement du moteur 3D a coûté beaucoup beaucoup d'argent, et que donc du coup ils étaient plutôt pessimistes sur une éventuelle suite, un DLC et tout. D'ailleurs, en plus, le jeu se termine vraiment en queue de poisson, et donc voilà, j'ai un peu peur pour le studio, j'ai un peu peur aussi pour l'avenir de la licence. Mais toujours est-il que oui, effectivement, c'était pour moi la méga déception vidéoludique.
Est-ce que la leçon, ça serait pas ce qui était en 2D doit rester en 2D et essayer d'éviter.
Le mec réactionnaire.
Non, mais bon, faut reconnaître, des fois, le passage en 3D, tu parlais de la PlayStation tout à l'heure, on a eu quand même des cas qui étaient un peu catastrophiques à une certaine époque.
Souvenons-nous de Worms 3D.
C'est ça, quelle idée, pourquoi revenir à ça?
Comment avoir fait pipi sur notre enfance? Tiens, on va faire Worms en 3D.
Ça super.
Non, mais c'est vrai que. C'est, peut-être. Je pense que voilà, ils avaient envie de proposer quelque chose de nouveau. Ça, c'est une initiative tout à fait louable. Et je pense qu'ils étaient tellement partis dedans, ils ont mis tellement billes dedans qu'en fait, ils ont complètement oublié tout le reste, tout ce qui faisait le charme aussi de la série. C'était pas uniquement une direction artistique. C'était aussi un level design qui était vraiment hyper poussé. Et aussi une espèce d'évolution des personnages qui était aussi intéressante. Et là, alors que là, finalement, on avait les personnages qui avaient déjà leur pouvoir du début jusqu'à la fin. Enfin, bon, bref, je vais pas refaire tout le test, mais effectivement, c'est peut-être la leçon à retenir, c'est que finalement, ils ont peut-être dû rester à ce qu'ils savaient faire de mieux. Et finalement, peut-être que ça aurait beaucoup, beaucoup mieux marché. Voilà, on va pas passer par des trucs un peu plus joyeux, peut-être quand même, non,
parce que... Donc le mec, il a joué un truc.
C'est ça.
Il l'a pas aimé. En fait, tu t'es rendu compte que t'aimes pas les jeux vidéo, quoi.
Non, mais il y a Tomb Raider aussi, mais j'ai pas aimé.
Ok, d'accord. C'est génial, on dirait moins. Alexis, toi, t'es un mec positif.
Ah, moi, j'ai aimé des trucs, j'ai aimé des tas de trucs. Et
toi, t'aimes tout.
Pas tout à fait, mais non, mais il y a eu vraiment des gros coups de cœur pour moi, ou moins deux, on va dire. Il y a notamment Everybody's Gone to the Rapture qui était sorti sur PS4 et qui m'a vachement emballé de par sa narration atypique et le fait comme ça de découvrir l'histoire petit à petit, de pouvoir l'interpréter. Enfin bref, c'est pareil, j'en ai déjà parlé en long, en large, en travers, je vais pas non plus en rajouter.
Il y a un joli Be Quiet là-dessus.
Il y a aussi un test. Bref, normalement, vous devez trouver votre bonheur si vous le cherchez sur le site. D'ailleurs, il y a des rumeurs de plus en plus insistantes comme quoi le jeu arriverait peut-être finalement sur PC. Alors, on va pas refaire vite, mais vite fait, on se souvient que ça a été annoncé comme PC, PS4. Finalement, il n'y a que la version PS4 qui est sortie parce que y a Sony qui a vachement aidé derrière, notamment en fait Santa Monica Studio qui a vachement poussé et qui a pas mal aidé. Et bon, les rumeurs reviennent sur une probable sortie PC. Moi, je peux que l'espérer. Ça permettrait à plus de monde de le découvrir. Et c'est un jeu qui vaut le coup. Mon deuxième gros coup de cœur sur lequel je suis aussi en ce moment et que je n'ai toujours pas lâché, c'est Bloodborne. Le jeu de base, je trouvais qu'il y avait quelques petites imperfections qui sont... disons qu'il y avait un petit sentiment de pas fini à la fin, disons qu'il manquait un petit quelque chose qui a été clairement rajouté avec le DLC The Old Hunters et je m'éclate dessus. Je trouve que c'est un jeu qui me rend tout foufou et ça m'excite et ça me fait plaisir, tu vois. Après moi, j'ai quand même eu des déceptions, et notamment la plus grosse, moi, ça serait le dernier Metal Gear, parce que le système d'infiltration est bien foutu, il y a des bonnes mécaniques de jeu, vraiment. C'est joli, il y avait du potentiel, on va dire, mais au final je, l'histoire, ça me va pas du tout, quoi. Elle est pas terminée, enfin, je veux dire, t'as l'impression qu'il manque un tiers du jeu au moins, quoi. Et ça me choque énormément, surtout quand on te le présente comme étant le dernier épisode de la série. Finir là-dessus, j'ai l'impression qu'on m'a volé mon Metal Gear, on m'a volé Big Boss, et ça m'a rendu...
T'as volé Big Boss, mais on t'a offert Quiet.
Waouh, comme j'y gagne au change, personnage le plus charismatique du monde. Non, mais c'est ça, justement, il n'y a pas de personnage charismatique.
Attends, elle produit de la chlorophylle.
Elle produit de la chlorophylle et elle chantonne. Et elle a toujours la bouche ouverte.
Elle se douche.
Ça,
c'est un problème de mâchoire.
Ça doit être ça, ouais. La chlorophylle, ça. Mais après, il est pas tout acheté. Je sais que notamment notre ami JB apprécie encore tout particulièrement le mode online qui a l'air assez riche et assez original. Pour être tout à fait honnête, je suis tellement déçu que j'ai pas eu le temps de m'y mettre des masses. Mais je le crois sur parole qu'effectivement il y a des recherches derrière et que ils ont voulu intégrer vraiment l'infiltration dans du multijoueur, ce qui peut être assez étonnant.
Ce qui a déjà été fait, hein. Oui, Splinter Cell l'avait plutôt bien fait. Là, moi, quand on dit Metal Gear Online, j'ai l'image de plein de cartons qui bougent en fait sur une map toute pourrie.
C'est juste une boîte.
Je ne suis qu'un carton.
Donc voilà, moi, après, cette année-là, il s'est passé plein d'autres trucs, mais...
Bon, c'était pas trop marquant.
C'est ça.
Monsieur JM.
Oui, qu'est-ce qui se passe?
Je sais pas, t'as aimé des trucs? Non, on s'en fout, oui, suivant.
Moi, j'ai aimé des trucs. Qu'est-ce que j'ai aimé? Vite fait, Batman, je suis pas le seul à avoir aimé Batman Arkham Knight. JB, encore lui, notre graphiste, a beaucoup aimé. Bon, c'est la suite d'une série qu'on connaît, donc je vais pas m'étendre là-dessus. J'ai aussi aimé Her Story. Le jeu d'aventure très particulier où tu visionnes des interrogatoires de police d'une dame, tu essaies de découvrir, il y a eu un meurtre si je me souviens bien, et son interrogatoire, elle est accusée visiblement, et tu regardes son interrogatoire qui est découpé en plusieurs séquences complètement déstructurées, et tu, via un moteur de recherche, en tapant des mots-clés, tu peux obtenir de nouvelles séquences vidéo, et c'est à toi de remettre dans l'ordre ce qui s'est passé, quoi. Il n'y a pas de véritable fin dans le sens où ça y est, vous avez gagné le jeu. C'est à toi de te faire ta propre histoire en fonction de ce que tu découvres. Et c'était très très intéressant au niveau de la narration. Donc je le recommande, il y a un test sur Extra Life. Je vous encourage à le lire. J'ai beaucoup aimé aussi Dropsy, encore de l'aventure. Et lui, pour le coup, c'est de la narration sans parole. C'est un jeu d'aventure très très old school où tu joues un clown complètement... difforme, on va dire, qui a pour but de répandre l'amour autour de lui et donc de donner des câlins à toute la ville. Et c'est très 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 bien vu au niveau de l'interface de dialogue notamment, où il n'y a pas de parole, tout se passe par des petites icônes. Et l'un des objets du jeu, c'est justement de comprendre et de déchiffrer ces icônes, parce que le créateur du jeu se défend en disant Dropsy a du mal à communiquer avec les autres. Du coup, j'ai voulu faire sentir ça aux joueurs, et les icônes ne sont pas toujours très claires. Et c'est aux joueurs de les interpréter, de comprendre ce qu'il doit faire en fonction de ce que les gens lui disent via ces icônes. Et c'est très très intéressant, un très très bon jeu d'aventure, qui a aussi l'originalité pour un point and click d'être dans un monde ouvert. Tu peux te balader partout dans la ville, quoi, pratiquement partout. Et c'était super intéressant. Et dernier jeu qui m'a marqué cette année, c'est Until Dawn. Et il m'a marqué parce que je ne m'attendais pas à ce qui me plaise. Et ça m'a beaucoup plu, ce jeu d'horreur qui est sorti sur PS4, où c'est un teen movie. Tu incarnes un groupe de têtes, je crois qu'ils sont 8 ados, qui sont dans un chalet dans une montagne, et il y a un tueur qui les pourchasse. Et tout se passe via des choix que le joueur réalise pendant l'aventure et qui auront des répercussions dans le suite de l'aventure. C'était très très intéressant. Je me suis beaucoup amusé à suivre ce groupe d'ados.
Ok.
Merci à
Ouais,
toi.
ouais. Et j'ai une déception. Je pense que peut-être Nico, Dino, tu la partages avec moi. La fin de Broken Age, qui était. Ah non, tu l'as pas fait, toi. Tu l'as pas fait,
Non,
c'est
non,
vrai,
j'ai
Dino.
dit non. Broken Edge, je sais plus si on m'en avait déjà parlé, mais voilà, le côté
Ouais.
coucou, j'ai mis plus d'un an à t'offrir les
Ouais.
70% qui restaient de mon point and click. Non, ça m'a tué, j'ai pas réussi à
Ouais.
repartir dedans et je sais pas si je le ferai un jour.
Bah, j'étais un peu déçu par la fin qui a il y a donc il y a deux épisodes. La moitié du deuxième épisode ça allait, et puis la deuxième moitié du deuxième épisode c'était un peu bâclé pour moi. C'était
Bah, il y avait
il nous faut
beaucoup
une
de
fin vite fait,
recyclage
quoi.
avec le premier épisode pour le coup.
Mais ça m'a pas vraiment dérangé. C'est juste la vraie fin qui était très bâclée pour le coup, qui était mal
Il y a
amenée.
un côté de naufrage dans Broken Edge quand même, je trouve, enfin dans la romance Broken Edge, quoi, le côté super, belle aventure Kickstarter, puis au
Ouais.
final, bon. Et enfin, je sais que voilà, moi du coup, j'ai jamais fait la suite parce que me relancer dans un point and click plus d'un an après, j'avais pas envie de refaire le début.
Non,
Par
c'est vrai que les
contre,
dernières énigmes sont quand même pas folles non plus, quoi. Il y a
enfin, les
pas.
premières sont pas
Non.
terribles, mais
Ça
non,
s'arrange pas.
les dernières sont
Enfin,
quand même plus intéressantes hein, que les
Ah,
premières,
t'as
mais
trouvé?
l'histoire est pas intéressante. Moi, j'ai trouvé ouais, que c'était plus intéressant la résolution d'énigmes sur la deuxième partie. Enfin, par contre, indéniablement, Grim Fandango, qui, 20 ans après, a toujours
C'est ce que
un
j'allais dire
charme
finalement.
incroyable.
Pour rester dans la famille Schaeffer, moi je préférais rejouer à Grim Fandango aussi.
Ouais, là, clairement, qui est sorti cette année en remastered, que JB, encore lui, a beaucoup aimé. Voilà pour moi.
C'est ton tour
Et ben
maintenant.
c'est mon tour, et ben donc bah ouais, Grim Fandango, effectivement, même si c'était un remaster un peu paresseux, effectivement, hein, techniquement c'est pas non plus une tuerie, mais ça reste Grim Fandango. Moi il y a des petites choses, alors c'est vrai que moi non, c'est pareil, j'ai pas joué à énormément de choses en fait.
Ah, je suis pas tout seul, ça me
Non,
rassure.
voilà, je suis hyper occupé comme mec, c'est pour ça. Je suis en train de me lancer dans la politique, alors j'ai beaucoup beaucoup de rendez-vous. J'ai bien aimé le petit truc expérimental de Crows, Dr. Langeskov. Même si ça dure 22 minutes, là j'ai mis de côté cette espèce de filiation avec Stanley Parable et ce petit jeu expérimental. Bon, c'est pas grand-chose. J'ai bien aimé Stasis, qui était un point and click horrifique, qui marche très bien. Et faire de l'horreur en point and click, ça, c'est pas hyper
C'est
fréquent.
difficile.
C'est difficile, voilà. Donc ça renvoyait un petit peu à des choses assez anciennes comme ben, Sanitarium. Hein. Et ça marchait plutôt bien. Sinon, j'ai joué à beaucoup de choses. Je dis que j'ai pas beaucoup de temps, mais en fait, j'ai joué à des jeux de chômeurs, c'est pour ça. Il y a Fallout 4. Fallout 4, on peut dire, il y a plein de reproches à lui faire dans sa filiation avec la série. Enfin, voilà, il y a des aspects décevants, mais il reste très agréablement chronophage, mine de rien. Ça reste quand même un titre dans lequel, une fois enfin, quand on plonge dedans, on a du mal à en ressortir. Dans le même genre, Witcher 3, là encore, tout le monde n'est pas d'accord pour dire que c'est le jeu parfait, machin. En attendant, Witcher 3, moi, une fois que j'ai entré et que j'ai pénétré l'univers, j'ai eu énormément de mal à en ressortir. Je trouvais ça assez magnifique, la narration est absolument grandiose. La moindre mini quête FedEx a droit à de vrais dialogues, à une vraie mise en scène, donc c'est quand même, rien que pour ça vaut le coup. Et sinon, un jeu aussi qui est sorti en mars, si je dis pas de bêtises, et sur lequel j'ai passé un temps phénoménal pendant un moment, c'était City Skyline.
Ah oui.
C'était parce que c'était le retour du City Builder après l'immense déception qui avait été le dernier SimCity. Voilà. City Skyline, ils sont arrivés avec quelque chose de basique quelque part, hein, parce que c'était finalement il doit beaucoup à SimCity 4, je pense. Quelque part, c'est un peu l'évolution qu'on attendait du City Builder. En ajoutant à ça tout l'aspect, tout le workshop de Steam, la communauté, elle est assez ouf sur le jeu. Il y a quand même des trucs, c'est quasiment la communauté qui fait le jeu. Et donc, c'est assez balèze. Du coup, j'ai voulu m'y remettre l'autre jour, en repartant de zéro, en réinstallant et en supprimant tous les mods. Et j'ai eu très très peur en voyant que j'allais devoir passer des jours et des jours à refouiller les mods pour savoir lesquels utiliser. Mais voilà, c'est un jeu qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup occupé, en fait.
Et c'est ça qui t'a donné envie de te lancer en politique.
Exactement. Je me suis dit que j'allais devenir maire. Et quand j'ai vu que, en fait, quand t'es maire, c'est pas toi qui décides comment ça marche le réseau des eaux usées, j'étais super déçu. Moi, je croyais que tu faisais vraiment tout. Et je voulais mettre 15% d'imposition sur tout, en fait. Et ce fut un échec. Cuisant, même, dirais-je. Au-delà des jeux vidéo,
On peut peut-être aussi juste citer, il y avait Ori and the Blind Forest qui est noté par l'ami Nico, juste qui était comme jeu marquant. On avait aussi, il me semble, Benjamin qui travaille à la technique, qui... alors c'est pas moi qui ai la liste sous les yeux, c'est pour ça que je regarde
Zelda Triforce.
Voilà, Zelda Triforce, il y avait aussi Dragon Quest Heroes qui lui avait bien plu, il me semble. Donc ouais. Juste pour
et King's Quest qui avait plu aussi à JB, voilà. que j'attends de faire quand il y aura un peu plus d'épisodes parus. Voilà.
Ouais, ça, on peut effectivement passer du coup au...
Oui, parce que nous ne parlons pas que des jeux vidéo, parlons aussi de jeux de société. Enfin, pour le coup, je pense que c'est surtout vous qui allez en parler. Moi j'ai découvert les jeux de société quand même cette année. Hein. C'est pas rien.
C'est sympa en fait.
Hein, parce qu'il faut savoir que je suis un escroc, j'y connais que dalle avec Time Stories. Hein.
Ouais. On a joué XCOM aussi.
On a joué XCOM. XCOM, c'est cool. Hein, ouais. C'est dit. Il est très très cool jeu de plateau XCOM.
Tout à fait.
Et Mysterium.
Et Mysterium. Ah, t'as moins kiffé Mysterium.
C'était bien, mais j'ai moins.
On dirait mon père.
Et je sais pas si ça te convient.
Il a dit la même chose pour Mysterium. Ouais.
Je suis ton père. C'est ça qu'il dit, non?
Ouais.
Non mais oui, effectivement, ouais. dans les jeux de société, je vais aussi commencer la rubrique par quelque chose qui m'a déçu.
Parce ah bah que, super, bravo, bravo.
Au final,
c'est plus moi, les gars.
C'est une tactique, on rabaisse l'auditeur, quoi, pas là, on rabaisse l'auditeur, mais on rabaisse l'ambiance pour la réélever après.
Voilà, c'est ça.
C'est ça. Non mais c'est vrai que...
c'est quand tu veux vendre une saloperie, ça, tu commences par tout ce qui va pas pour finir sur un point vaguement positif qui n'en est pas un, en fait.
Mais,
et non, vous avez vu, il y a de la lumière.
Non, mais c'est vrai que bon, voilà, il y a eu pas mal de jeux de société intéressants auxquels j'ai joué cette année, mais d'ailleurs, je suis même pas vraiment sûr qu'ils soient sortis en 2015, d'ailleurs, parce que j'ai un peu de retard, mais c'est vrai, encore une fois, malheureusement, le jeu qui m'a marqué et négativement, c'était vraiment Time Stories, parce que je l'attendais quand même beaucoup. On en a aussi beaucoup parlé, c'est quand même relativement rare qu'il y ait autant de hype, justement, autour d'un jeu de société. Et c'est vrai que voilà, il y en a plein d'ailleurs qui l'attendaient énormément ce jeu. Et malgré tout, j'ai pas joué tout de suite dès sa sortie. Et c'est ça en fait qui était le pire, c'est que finalement les premiers retours, les premières critiques étaient vraiment plutôt élogieuses sur le jeu. Et donc
dithyrambique même.
Voire même dithyrambique. Et du coup, ça me confortait encore plus dans mon impression. Et c'est vrai que bah voilà, quand on y a joué. D'ailleurs, c'était relativement général. Hein. Toutes les personnes qui ont joué, enfin, en tout cas au sein d'Extra Life, ont quand même repéré.
J'ai pas encore joué.
Ah oui, toi, t'as pas encore joué, pardon, c'est vrai.
Non, j'attends, j'ai envie.
Donc, je vais pas trop te spoiler.
C'est 6 mois qu'on dit que c'est pourri, il veut toujours y jouer.
Ouais. Non, mais c'est vrai que voilà, encore une fois, le but, c'est pas de.
C'est pas pourri, c'est pas vrai.
Non.
Non, mais on n'est pas rentré dedans, quoi. C'est vrai,
non, on n'est pas rentré dedans pour diverses raisons d'ailleurs, et elles sont toutes exposées dans le test. On fait beaucoup de pubs pour le site. Mais c'est vrai que voilà, moi personnellement, je trouve qu'il y a quand même de gros soucis de game design qui font que non seulement tu rentres pas forcément dans le jeu, mais en plus même dans les enchaînements de parties, en cours de partie, il y a des mécaniques qui t'empêchent enfin qui nuisent vraiment à l'expérience de jeu. Et ça, c'était vraiment dommage. Alors après, certes, il n'y a pas que le jeu de base, il y a aussi les scénarios supplémentaires. Alors on avait commencé le premier scénario qui était The Marcy Case, on avait fait un acquis de tour dessus, d'ailleurs on n'a toujours pas fini. Il faudrait qu'au moins qu'on le finisse.
Mais je pense qu'ils vont avoir commencé depuis le début en fait, parce que moi je ne me rappelle de rien.
Non, mais on va recommencer.
À part Hulk Spip.
Mais voilà, il y a un deuxième scénario qui est sorti il y a quelques semaines, c'est La Prophétie des Dragons. Donc je ne sais pas ce qu'il en est.
Moi j'aimerais bien qu'on replonge dedans parce que la mécanique de base elle est quand même vachement bien.
Ah non, mais
c'est dans la pratique qu'il y a des trucs qui vont pas trop.
Et puis The Marcy Case nous avait quand même plus que le premier.
Voilà, le scénario a été un peu plus prenant que le scénario de base. Et c'est vrai que la mécanique de base, d'exploration comme ils appellent ça, c'est vraiment, c'était super intéressant. Après voilà, je sais pas ce que donne le deuxième scénario, donc c'est vrai que c'est un peu le genre de jeu qui finalement peut regagner un certain intérêt en fonction des scénarios. Après le problème reste le même, c'est que malgré tout il y a quand même des mécaniques en dehors de la d'exploration qui font que le jeu s'étouffe un petit peu quoi. Donc du coup ça va se répéter même dans les prochains scénarios, donc à voir. Je sais pas si on aura l'occasion de tester le deuxième scénario, mais voilà, pour moi c'était la grosse déception en termes de jeux de société cette année, parce que ouais, j'en attendais quand même beaucoup. Donc voilà, passons à des choses plus réjouissantes.
Qui a des choses positives à dire?
Moi.
Allez, je t'en prie, j'y
vais.
Discoveries, que j'ai découvert assez récemment, mais qui est sorti donc en 2015. C'est un jeu sur Lewis et Clark de Cédric Chaboussi, édité chez Ludonote, qui avait déjà fait un jeu sur Lewis et Clark, mais c'était plutôt un jeu de course où tu gérais ta main de cartes et il fallait arriver le premier sur la côte pacifique. Ici, c'est pas du tout un jeu de course ni de cartes, c'est un jeu avec des dés dans lequel tu vas passer ton temps à explorer donc le pays, les États-Unis, pour découvrir de nouvelles espèces d'animaux et végétales, pour pactiser avec les Indiens. Et ça se joue donc avec les dés, et il faut que tu gères ton pool de dés qui représente des membres de l'expédition de Lewis et Clark. Et tu peux piquer des dés à tes adversaires, tu peux les utiliser, les adversaires peuvent les reprendre sous ton nez. Bref, c'est un jeu qui m'a beaucoup beaucoup plu. Un épisode, je fais de la pub hein, pour le site, un épisode d'entrée de jeu sera prochainement en ligne sur ça. Codenames aussi m'a beaucoup plu. C'est un jeu de mots avec tout bête, des idées toutes bêtes, des cartes qui sont 25 cartes qui sont posées sur la table. Ça se joue par équipe. Un membre de l'équipe connaît les mots qu'il doit faire deviner à ses coéquipiers et les mots qu'il ne doit surtout pas faire deviner. Et il donne un indice. C'est comme pyramide en fait, mais un peu inversé. Tu donnes un indice pour trouver plein de mots et t'essaies de trouver l'indice qui peut convenir au maximum de mots, sans faire deviner les mots de l'équipe adverse. Et mine de rien, cette idée toute bête a très très bien fonctionné et j'étais vraiment séduit par ce jeu tout simple, encore une fois. Et qui sortira donc l'année prochaine en France. Il est sorti en version anglaise, là. Il est disponible en version anglaise. Et dernier qui m'a marqué, c'est Pandemic Legacy, dont j'ai déjà parlé, donc je vais pas revenir dessus. Voilà.
Bon, Alexis, en deux briques.
En deux briques, Seven Wonders, duel. 3, désolé. Non, bon, faut vite fait, hein, de toute façon, j'en ai déjà parlé aussi. C'est la version 2 joueurs de Seven Wonders. Et j'accroche toujours autant, j'y joue toujours autant. En fait, on a fait une espèce de boulimie avec mon épouse là-dessus et on continue de s'éclater sur du Seven Wonders Duel parce que les parties sont courtes, parce qu'on peut les enchaîner et parce que en fait, plus tu connais le jeu, plus tu peux faire des pièges un peu retors, plus tu essayes d'élaborer des stratégies longtemps à l'avance, plus tu peux forcément. Hein, et en fait, quand tu es deux à évoluer sur le même jeu, bah, ça devient toujours intéressant parce que tu peux en fait. T'évolues au même niveau, on va dire, même si je me prends souvent des rousses, mais disons que
c'est toujours ton fils hein, que tu peux entraîner si tu veux.
Ouais, il essaye malheureusement. Donc ouais, non, vraiment Seven Wonders Duel pour moi c'était une claque et je m'éclate toujours autour dessus quoi.
Cool,
ok,
voilà.
Non.
Au-delà des jeux tout court,
ouais. Bon, moi je dis ça, mais quelqu'un sur ma fiche m'avait marqué l'extension de Five Tribes, mais c'est pas grave.
Bah, je peux, je
sais pas. Non, mais vous êtes une bande d'anarchistes, vous me mettez n'importe quoi sur mon rail.
C'est moi qui l'ai mis, mais je voulais juste gagner du temps. Oui, il y a une extension de Five Tribes qui est sortie, et oui, Five Tribes est excellent, et oui, avec l'extension, c'est encore mieux.
Voilà. Et oui, il y a un d'entrée de jeu dessus.
Exact.
En fait, tout ce podcast n'est qu'un concentré de liens.
Voilà. Autopromo, autopromo,
c'est une façon de faire une ferme de liens sans se faire gauler par Google, en fait.
C'est ça.
On est malin, hein. Mm-hmm. Voilà, au-delà des jeux à proprement parler, il s'est passé des choses dans l'année. Il y en a deux en fait, hein, finalement, sur lesquels on voulait revenir rapidement.
Oui.
Toi, il y a un chiffre qui t'avait impressionné.
Oui, moi, c'est là, pour le coup, c'est quelque chose de plutôt positif et vraiment quelque chose qui m'a vraiment surpris. C'est les chiffres de vente de la PS4 qui sont juste astronomiques. Ils sont prêts à quasiment à 36 millions de consoles vendues. Et d'ailleurs, Microsoft ne communique plus vraiment.
Voilà, moi, c'est surtout ça en fait. C'est la réaction de Microsoft qui, du coup, ne communique plus de chiffres.
Bah, c'est
je pense. Parce qu'il ne faut pas forcément dire que la machine ne se vend pas.
Non, non, parce qu'on.
Mais que, relativement à l'explosion de PS4, c'est.
Et puis, je pense qu'ils n'ont pas de réel argument aussi. Et d'ailleurs, parce que. Les derniers chiffres, je crois, datent d'octobre 2015, si je ne dis pas de bêtises, concernant la Xbox One, et ça tournait autour des 16 millions, je crois, de consoles vendues. Alors après, avec Noël et tout, il y a eu des grosses sorties quand même, des grosses licences et des grosses exclus Xbox One qu'il y a eu à la fin de l'année, donc je pense que maintenant, on se rapproche peut-être plus du 18-19 millions. Enfin, c'est de la pure spéculation, mais toujours...
À la louche.
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, Microsoft ne communique plus dessus, parce que je pense que les chiffres sont relativement honnêtes, mais comparé à la PS4 qui fait vraiment un succès juste monstrueux, j'avais fait un comparatif avec la PS3. Alors c'est jamais très bon de faire ce type de comparatif.
Ouais, ils ont pas eu le même démarrage.
Voilà, il n'y a pas eu le même démarrage et tout, mais je crois à 2 ans, genre autour de 2008, la PS3 elle était genre à un peu moins de 20 millions, je crois, de consoles vendues. De toute façon, Sony avait communiqué, c'est le meilleur démarrage d'une console Sony, si je dis pas de bêtises, en tout cas, de manière aussi prononcée. Et c'est vrai que moi, ça me surprend d'autant plus parce que finalement, j'arrive pas vraiment à trouver de réelles raisons à de tels chiffres. Et il y avait quelque chose, moi, qui m'avait surpris et étonné. C'était en début d'année 2015, il y avait l'Institut Nielsen qui avait fait un sondage. Alors, les sondages, c'est toujours pareil, il faut toujours faire un peu attention, mais malgré tout, c'était quand même assez impressionnant. Donc, c'était un sondage auprès de 2000, je crois que c'était 2000 personnes âgées de 13 à 60 ans, avec une parité homme-femme. La question, c'était quelles sont les raisons pour lesquelles vous achetez la PS4, la Xbox One ou la Wii U. Et le premier argument de vente sur la PS4, c'était la meilleure résolution. Et c'est même pas l'exclu, c'est vraiment la meilleure résolution. Et ça m'avait d'autant plus surpris que je me dis que finalement, cet argument marketing un peu bidon qui est apparu justement avec cette génération de consoles, en disant « Attendez, chez moi c'est 1080p.
Achète un PC du gland.
Non mais bon, déjà. Et de l'autre côté c'est 920p, donc
c'est
venez, chez moi,
même prix, quand même.
Venez chez moi, c'est mieux. C'est quand même un argument qui est... Bon, il est ce qu'il est, je vais pas forcément revenir dessus parce que...
C'est surtout un argument que tu vas trouver chez les gens qui sont déjà un petit peu connaisseurs, parce que Madame Michu, de base...
Exactement.
Tu lui dis ça, elle va rien piper, quoi.
Exactement, et puis même...
Après, ça dépend si c'est un questionnaire à choix multiples et que les autres choix ne parlent pas non plus à Madame Michu.
Oui, ou que tu suggères la réponse aussi.
Voilà,
parce que si tu poses la question en disant d'un côté c'est 1080, de l'autre c'est 900, et encore, pas sur tous les jeux, type de base, il va répondre là où il y a le chiffre le plus gros. Mais si tu poses la question comme ça de manière lambda et qu'on te dit c'est pour la résolution, c'est que tu as affaire à quelqu'un qui sait déjà.
Alors que tout le monde sait que c'est parce que aussi ça sert de radiateur d'appoint.
Exactement. Non, mais après, ce que je veux dire par là, ce qui est étonnant, c'est que finalement, voilà, comme je disais, c'est un argument marketing qui est apparu un peu avec cette... Et d'ailleurs, c'est un peu de la faute de la presse.
Non, ça se voit à l'œil nu. Dès que tu regardes, le sais, tu peux compter les lignes avec tes
yeux. Exactement. Donc, ça se voit pas forcément à l'œil nu. Et finalement, c'est un peu aussi de la faute de nous, journalistes, parce qu'on relayait aussi ce type d'infos en disant, oui, sur tel jeu, il y avait telle résolution, etc. Et finalement, ça, j'ai l'impression que ça a beaucoup marqué les consommateurs, puisque maintenant, ils disent, ah non, voilà, la PS4, parce que c'est en 1080p, 60 fps... Alors voilà, c'est
ouais, enfin 1080p 60 fps.
Voilà, exactement.
Dans le meilleur des cas quand même. Hein.
Voilà, donc non, mais c'est pour ça que
souvent c'est plutôt 28.
C'est pour ça que ça m'avait vraiment beaucoup surpris parce que au-delà de ça. J'arrive pas vraiment à trouver d'arguments. Alors certes, on peut parler des exclus, mais finalement, oui, il y en a peut-être, il y en a peut-être eu un petit peu plus sur PS4, mais il y en a quand même aussi. Il y a eu quand même, il y a toujours de grosses exclus, des grosses licences auprès de Microsoft. Et puis en termes de puissance de machines, on sait qu'elles sont plus ou moins équivalentes. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il y a eu cet argument qui était inventé entre guillemets par les constructeurs. C'est
ouais, mais le pad fait de la lumière.
Le pad fait de la lumière.
Attends, il y a eu quelques petits soucis sur certains jeux, parce que là, tu parles de résolution. Je pense notamment au dernier Assassin's Creed ou l'avant-dernier.
Ah, c'était Unity, je crois.
C'est sur Unity, ouais. Ça a fait du mal à la console, je pense aussi, parce que.
C'est
pas enfin, moi non plus, je suis pas. Enfin, je veux dire, quand ça descend à 30 FPS, ça me va parfaitement. Mais bon, quand t'as l'impression de cligner des yeux devant ton écran, ça commence à. Voilà, bon, il y a eu des petites histoires comme ça qui ont fait que des fois des jeux multi-support ont peut-être été un peu plus. Même si la résolution est plus basse, mais si le jeu reste fluide, c'est pas très grave, quoi. Par
oui,
contre,
oui.
Quand tu commences à avoir des grosses chutes de framerate à ce point-là,
oui, mais encore une fois, enfin de là, est-ce que ce soit le
non, bien sûr que ce soit un argument, c'est étonnant. Moi, je pense que je serais plutôt pour le fait que peut-être le catalogue PSN est plus excitant que le catalogue Xbox Live Arcade en ce moment, ce qui était l'inverse avant, sur la précédente génération de consoles.
Tout à fait.
Et bon,
d'autant plus, excuse-moi, je te coupe, d'autant plus que maintenant l'abonnement PS Plus est obligatoire sur PlayStation 4. Donc de toute façon, maintenant tout le monde a accès à ce catalogue PlayStation Network et à ces jeux gratuits tous les mois. Et c'est vrai que quand tu regardes les jeux qui.
Obligatoire pour jouer en ligne,
oui.
Précise.
Oui, parce que
pour jouer en ligne.
T'as des gens qui achètent une PS4 mais qui ne jouent pas en ligne.
Oui. Mais effectivement, enfin voilà, t'as quand même maintenant forcément beaucoup plus de gens qui ont accès à ça. Et je pense que ça a dû jouer aussi parce que effectivement, quand tu regardes, après c'est purement personnel, mais c'est vrai que si je compare le catalogue de jeux PS Plus gratuit et le catalogue de jeux gratuit sur le Xbox Live, en général j'ai plus d'attirance pour le catalogue du PlayStation Plus. Donc après c'est peut-être voilà, c'est.
Mais tu parlais de communication de journalistes, quoi, de notre responsabilité, mais il y a également la responsabilité des constructeurs eux-mêmes.
Ah non, mais c'est ce que je disais, c'est que l'info venait de là, hein. L'info.
Oui, non, mais le fait de pas spécifiquement sur la résolution, mais sur la communication que Microsoft avait adoptée au départ.
Ça, par contre, ça c'est clair.
Complètement renversé, et je pense que ça a fusillé leur démarrage aussi.
Ben, ça a fusillé leur démarrage, mais ça aurait pu quand même. L'écart aurait pu quand même se rétrécir avec le temps. C'est-à-dire qu'au démarrage, ouais. La PlayStation 4 démarre beaucoup plus fort que la Xbox One pour cette raison-là, ok. Mais au bout d'un moment, tu vois que les consoles sont quand même plus ou moins, en termes de puissance, sont plus ou moins équivalentes, etc. Ça aurait pu. Voilà, l'écart aurait pu se réduire et c'est complètement l'inverse, quoi.
Mais il y a aussi le fait que ça joue en amont au niveau des studios de développement, quand ils voient que la philosophie de Microsoft à l'époque c'était d'axer sur le multimédia, sur la télé, les choses comme ça, et peut-être pas forcément sur le jeu à fond. En tant que studio, tu te dis bon, bah je vais peut-être aller voir chez Sony s'ils ont quelque chose de meilleur à me proposer. Et du coup, ça a joué sur les sorties de jeux des 1 voire 2 ans post-sortie.
Mais oui, c'est possible, hein. C'est possible.
Tout ça alors que les gens auraient pu s'acheter une Steam Machine.
Par exemple.
Hein, ça, c'est une belle victoire de 2015 aussi, quand même. Hein.
C'est pas faux. Hein, c'est pas faux. On n'y avait pas pensé à ça.
Non, mais je viens d'y penser, là, d'un coup.
Non, hein, c'est vrai.
Truc que tout le monde avait complètement oublié, là.
Oui.
Ouais, ça se trouve, ça a mieux marché que la Ouya.
Eh ben, tu vois, je suis pas sûr.
Moi non plus.
Hein, et j'ai des doutes, quand même. Ceci dit, on voit, sans parler de Steam Machine, on voit quand même de plus en plus de mini PC avec des looks un peu chelous qui sont déclinés aussi en tant que Steam Machine, dans la mesure où il suffit d'installer l'OS dessus, mais c'est quand même un peu une espèce de vieux soufflet qui s'est dégonflé, cette affaire.
Après, c'est comme les
Game
Stick et les trucs.
Bah, ça dépend lesquels, hein.
Ouais,
il y a des, enfin, sans parler spécifiquement de Steam Machine, mais dans les mini PC il y a des trucs qui sont qui sont raisonnables en termes de tarifs, qui coûtent à peu près le même prix qu'une Xbox One ou une PS4, qui ont globalement la même chose à l'intérieur, qui font PC avec. Bon, le problème, c'est que ton truc, au bout de 2 ans, il est obsolète parce que tu peux changer aucune pièce, mais...
Oui.
Mais bon, oui, c'est vrai, une espèce d'étrangeté de l'année, un truc qui a un peu monté et qui s'est ouais. pété la gueule après.
Après, comme avait l'air de dire JM, je sais pas si c'est encore tout à faire tomber pour tout ce qui est Steam Link et Steam Controller, on va voir ce que ça va donner.
Ouais, alors, vu les tests, le Steam Controller et le Steam Link, je pense que ça va vite retomber, hein, parce que apparemment c'est quand même un peu tout naze.
Ouais, je t'avoue que je suis encore un peu curieux de voir ce que ça va donner.
Enfin, le Steam Link, après, t'as d'autres solutions hein, oui. alternatives pour.
Oui, je pense surtout au Steam Controller parce que ça a l'air d'être de proposer quand même un truc un peu étonnant au moins ou pas.
Bah, je l'avais bien aimé, je l'ai testé en mars, je crois, et il a dû évoluer depuis, mais l'ergonomie, j'avais bien aimé. Quoi, les retours haptiques sur les genres de surface tactile, ça avait bien fonctionné, c'était plutôt cool. Donc,
ouais. Ma foi, nous verrons.
Nous verrons.
Tu voulais parler d'un autre sujet, toi.
Oui, moi, c'est mon petit truc fétiche, c'est le psychodrame financier. Donc, les choses qui m'ont marqué cette année, c'est la tentative de. Enfin, la tentative. C'est le combat entre Ubisoft et Vivendi.
Ouais.
Qui pour l'instant n'a toujours pas de dénouement. Donc, petit rappel, Vivendi a commencé à grappiller des parts. Chez Ubisoft et Gameloft, s'est retrouvé devenir l'actionnaire majoritaire, hein, quelque part. Ce qui a déclenché tout un tas de stratégies qui sont toujours en cours chez Ubisoft pour que la famille Guillemot réussisse à garder son indépendance et le contrôle d'Ubisoft. Et pour l'instant, on suit une espèce de statu quo, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Bon, Vivendi a toujours eu une position un peu. Pas forcément très clair, parce qu'ils ont dit on cherche pas à prendre le contrôle, mais on n'exclut pas de prendre le contrôle non plus, on verra, on sait pas. Et voilà, et du coup, c'est un gros éditeur qui a réussi à maintenir son indépendance, qui a résisté déjà c'était pas une tentative d'OPA, mais qui a déjà subi un petit moment de fièvre avec Electronic Arts, même s'il était arrivé en disant non, on veut pas prendre le contrôle, c'est juste un investissement, on s'en ira quand on aura fait fructifier. Et là, c'était un peu, en plus, c'était vraiment un coup de tonnerre quand même, que personne n'a vu venir. Surtout que Yves Guillemot donc, a expliqué, je ne sais plus dans quelle publication il parlait de ça, qu'il avait parlé avec Vincent Bolloré la veille ou quelques heures avant. Il l'a eu au téléphone et il a appris juste après que Bolloré venait de s'emparer de toutes ses actions, qu'il ne lui avait pas dit un mot. Guillemot l'a appris le matin à peu près comme tout le monde quoi.
Ouais, ça t'apprend par la presse les rachats.
Ouais, c'est
dingue hein.
C'est fou, franchement,
tu te dis ça n'arrive qu'aux autres. Le matin tu arrives au boulot, tu lis la presse et tu découvres que on a racheté un morceau de toi, dis donc. Moi franchement pour moi c'était de la science-fiction. Hein. voilà.
Mais
c'est une histoire. C'est...
Excusez-nous, hein, il fallait que ça sorte aussi. Non, mais pour revenir à
Ubisoft,
à Ubisoft et Vivendi. Alors je sais pas justement où ça en est là depuis très récemment, mais je sais pas si t'avais suivi, mais il y avait l'annonce en fait que maintenant la licence Assassin's Creed allait un petit peu se ralentir, etc., avait fait chuter le cours de l'action.
Oui, mais ça, c'est les merveilles de la bourse.
D'Ubi. Et du coup.
T'as une série qui décline en plus, puisqu'en termes de vente, j'ai pas regardé les chiffres, mais elle se fragilise un peu. Et quand tu annonces quelque chose qui pourrait faire en sorte qu'elle redécolle, la bourse est pas contente.
Ouais. Les actionnaires
c'est
sont pas.
C'est con, un actionnaire.
Ah non, mais oui. Mais du coup, ça a mis encore plus de pression sur le groupe, parce que forcément, si la valeur des actions baisse. C'est peut-être encore plus facile pour Bolloré et Vivendi d'acquérir
ça va être plus difficile d'arriver
de contrer quoi,
à te regrouper,
voilà.
Faire des gros stocks
donc c'est vrai que c'est malgré tout c'est une histoire quand même qui c'est un peu pas triste, mais je veux dire c'est
aussi
je vais pas non plus pleurer sur eux
non c'est le but c'est pas ça, mais c'est vrai que malgré tout on suit quand même ça avec attention et un peu de d'appréhension aussi, parce que malgré tout on sait pas ce qui peut se passer.
Oui, il y a quand même des emplois derrière, il y a quand même aussi
y a des emplois, et Ubisoft finalement qui reste une entreprise, alors c'est pas non plus des grandes bandes de philanthropes, mais ça reste une entreprise qui a une culture dans ses projets, dans ses développements, quoi qu'on puisse dire de moins agréable sur la façon dont ils produisent leur jeu. Bah voilà, ils veulent enfin arrêter de faire un Assassin's Creed par an, c'est sûrement la meilleure chose qu'ils aient à faire. Qu'ils ont une tendance à faire du recyclage, etc. N'empêche qu'il y a une patte Ubisoft, il y a quand même truc, un jeu Ubisoft, c'est pas n'importe quel jeu. Et c'est vrai que tu te dis, si jamais ils devaient perdre leur indépendance, si quelqu'un se ramenait en disant, comme Bolloré par exemple, ça va pas du tout ce que vous faites, ça me plaît pas, je veux que vous fassiez les choses autrement, tu pourrais perdre un peu l'esprit Ubi. Et
tours de garde
par exemple.
Est-ce que tu t'imagines Vincent Bolloré arriver en disant, écoute Coco,
hein,
vous me faites un Léa Passion tour de garde.
Ton truc là, les tours de garde dans tous tes jeux, là, faut arrêter, parce que moi j'en ai marre, j'en peux plus de grimper partout dans tous tes jeux, il faut que je grimpe quelque part pour savoir où je vais. J'en ai marre.
Et après ça clignote de partout.
Et c'est quoi ce truc à la con là, de me faire un portefeuille en crocodile dans Far Cry, parce que sinon je peux pas acheter des munitions, hein? Quoique non, il serait plutôt du genre en rajouter finalement. Mais bon.
Ouais. Bah, surtout qu'il est le bonhomme, on sait pas de quoi il est capable, hein. On a vu ce qu'il a fait auparavant. Voilà, donc c'est ça qui fait d'autant plus peur aussi, quelque part. Enfin bon, bref, voilà, c'était.
À suivre donc en 2016.
Ouais, c'est le gros psychodrame 2015 qui va se poursuivre en 2016. Ouais. Voilà,
donc ça c'était 2015, maintenant parlons de 2016. Oh. Les jeux qui vont arriver là maintenant, tout de suite, dans pas longtemps.
Les jeux qui vont arrêter là maintenant.
Qui nous font frétiller.
Alors je sais que ça fait surtout frétiller.
Ah, moi je frétille à mort. Moi voilà. Je frétille, mais comme un petit gardon.
C'est qui frétille.
Parce que mine de rien, là, dans le mois qui arrive, le mois de janvier et février, il y a des tonnes de trucs tout foufou. Enfin, des tonnes. Ouais. Disons qu'il y a pas mal de trucs tout foufou quand même. Et je sais que toi aussi, JM, tu frétilles pas mal.
Clairement, ouais. Voilà.
Et c'est vrai que déjà, rien que cette semaine, bon, bah, le temps que ça soit diffusé, le jeu sera déjà sorti, mais du coup,
t'arrêtes de teaser là, vas-y, sors-nous les chiffres.
Ouais, balance.
Non, mais il y a Oxenfree
on
qui
est déjà
sort
à la bourre
à la fin de cette semaine qui a l'air prometteur, on va dire, pour le moins. Il y a du The Witness, n'est-ce pas, JM?
Clairement, ouais, il sort très très bientôt, donc ça, c'est un Mistlike que j'attends énormément depuis plusieurs années, fait par Jonathan Blow, qui avait fait Braid.
Ouais.
Il y a Firewatch qui va enchaîner après.
Unravel qui sort le même jour que Firewatch. Petit bonhomme en laine rouge qui a l'air mignon comme tout.
Alors, parce que vous parliez d'Unravel, à chaque fois je voyais pas ce que c'était, mais là du coup je ressens
ouais,
le truc.
Ouais.
T'as okay. XCOM 2, alors bon, je sais pas si on aura le temps de le tester dans les temps, peut-être encore un test qui arrivera extrêmement tard ou jamais. Mais c'est quand même un jeu qu'on attend parce que, enfin, en tout cas, le premier XCOM, enfin le premier, disons que le reboot des, voilà, le précédent XCOM était déjà excellent et là, ils ont l'air d'avoir explosé pas mal d'idées. Ça a l'air prometteur. Et moi, à titre personnel, il y a aussi Garden Warfare 2 que j'attends comme un petit fou parce que je m'étais éclaté et je m'éclate encore régulièrement sur le 1, sachant qu'il y a la bêta ouverte.
C'est pour ça que les tests sont en retard. Lâche-le.
Parce qu'ils font rien, les mecs.
Ils jouent à Garden Warfare.
Non, mais franchement, c'est un des rares jeux multi sur lesquels je suis resté aussi longtemps. Enfin, en tout cas, ces derniers temps, je reviens régulièrement sur du Garden Warfare. Alors que je précise que au moment de sa sortie, disons que je l'avais mal évalué, on va dire. Non, mais disons que.
J'assume pas.
Non, j'assume pas du tout.
Ouais,
et
pas.
Au final, c'était un excellent jeu.
Dis le mec qui cache sa bière. Hein.
Ah oui, bah oui, complètement. Ouais.
Non. Je trouve ça assez ironique qu'entre The Witness, Firewatch, XCOM 2, Oxenfree, Unravel et Garden Warfare, on ait passé le plus de temps sur Garden Warfare. Ouais.
Mais parce qu'il a l'air excellent, il a l'air tout foufou, quoi. Il y a plein de trucs en plus. Ils ont multiplié par je sais pas combien le nombre de classes possibles. Enfin, non, ça a l'air d'être.
Oh, ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Sinon, ouais, il y a Day of the Tentacle Remaster qui arrive aussi. Et ça, c'est cool.
Ça, c'est cool.
Ouais, ça va être le même jeu, mais j'adore Day of the Tentacle. Attention, pour moi,
c'est un joli lissage, quoi. C'est une bonne occasion d'y rejouer.
C'est ça.
Hein? Ou de le découvrir. Tout
ou de le découvrir. Si vous connaissez pas,
mieux, hein.
Jouez-y. C'est vachement bien.
Il faut préciser, c'est peut-être le meilleur point and click qui ait jamais existé, ou presque.
Bon, ça mériterait un grand débat, mais en tout cas, il est dans le top.
Dans le top 1.
Ouais, voilà. Après,
ouais, voilà. Ouais.
Ouais,
j'ai tellement envie d'être un tentacule.
Mais ouais, donc on va jouer beaucoup ces prochaines semaines, en tout cas, ça c'est sûr. Ça c'est clair.
Mais pas que, parce qu'il y a aussi des restes.
D'autres
titres qui sont attendus tout le long de l'année, et notamment pas mal de jeux Jap.
De jeux en provenance du Japon, tout à fait.
Dont pas mal de JRPG.
Oui,
Voilà, oui, bah. Je vous laisse vous débrouiller.
Non, mais bah, déjà, les deux premiers qui viennent en tête, c'est forcément Final Fantasy XV. Enfin, moi, je l'attends quand même parce que, de toute façon, en règle générale, les Final Fantasy, je les attends toujours avec une certaine impatience. Alors, après, c'est vrai que les trois, enfin, on va dire la trilogie 13. Bon, elle vaut ce qu'elle vaut. Moi, personnellement, elle m'a peut-être un peu moins marqué sur certains aspects, mais au niveau du gameplay, j'ai vraiment énormément accroché. Et ouais, le 15, je l'attends aussi quand même avec grande impatience. Et puis, on a aussi a priori le remake de Final Fantasy VII.
Au moins le premier bout.
Au moins le premier bout. Voilà, je pense que c'est quelque chose aussi qu'il faudra suivre de près parce que c'est vrai qu'on. Moi personnellement, je me pose vraiment des questions sur comment ça va se passer justement ce découpage de Final Fantasy VII. D'ailleurs, à ce sujet,
mal
peut-être, mais c'est vrai que il y a eu un tollé sur le net à propos de ça quand ça a été annoncé que ce serait en plusieurs épisodes, tout le monde a commencé à râler, etc. Et c'est vrai que moi finalement, certes, on peut être dubitatif, mais d'un autre côté, au moins, ça a le mérite quand même de faire un remake. Pas juste un pauvre remake, quoi. Ça, il essaye de proposer autre chose parce que finalement, on râle sur le fait que les remakes ou les remasters, etc.
En l'occurrence, c'est un remake et pas un remaster.
Voilà. Là, c'est un vrai remake. C'est pas juste un lissage de textures, etc. Donc,
mais ceux qui veulent le lissage, il est dispo aussi. Hein. Il est ressorti sur PS4 d'ailleurs. La version PC est ressortie sur PS4. Donc ça, c'est le...
Non, mais voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est d'ailleurs en parlant de remake et de remaster, il y a l'article d'Alexis.
Ça, sur quel site?
Sur le site.
Ferme de lien.
mais voilà, donc on commence par ça forcément en matière de JRPG. Je pense que c'est les deux les plus attendus. Après, il y a pas que ça, on a du Star Ocean 5 aussi malgré tout qui arrivera. Alors tu peux peut-être en parler un petit peu plus.
C'est juste que le 4 avait été extrêmement décevant.
Oui.
Et là on retrouve peut-être un Trace qui a un peu plus de forme sur le 5 et on l'espère en tout cas. Disons que il y a pas mal de choses qui ont l'air d'être repensées il y a des chances qu'il soit honorable.
Oui. Ouais, donc, je pense aussi.
Il faut voir. Après, il y avait d'autres sorties. Il y a Valkyria Chronicles qui revient sur PS4, mais surtout il y a un nouvel épisode PS4 dont on sait pas grand chose. Valkyria Azure Revolution, si ce n'est que on va retrouver un style graphique complètement fou et puis que c'est Valkyria Chronicles quoi. De toute façon, ça sera forcément génial. Enfin, je veux dire.
Un avis pas du tout subjectif.
Pas du tout. Et c'est l'ami Benjamin qui nous a marqué qu'aussi il y avait en tactical RPG, il y avait aussi sur 3DS.
Fire Emblem Fate.
Tout à fait. Alors qu'il va sortir en 3 versions. Moi, c'est pour ça que je l'attends pas trop parce que franchement, le coût des 3 versions, je trouve ça un tout petit peu abusé, on va dire gentiment. Voilà quoi. C'est vrai que du coup, il faudra peut-être l'acheter 3 fois pour faire le jeu en entier. On verra, ça se trouve, il y aura une version...
Comme Final Fantasy VII Remake.
Ouais, non, mais là... ouais, bon.
Ouais. Il y a quoi d'autre?
Après, il y a des trucs qui sont un peu plus... qui tirent plus vers l'action. Je pense à, forcément, il y a Dark Souls 3. Mm-hmm. C'est difficile de faire l'impasse, quoi.
Oui, ça m'aurait étonné que tu fasses l'impasse.
Non, mais... a priori, on retrouve un système de combat peut-être un peu plus dynamique... On pourrait dire que ça fait penser à Bloodborne, mais ou même à Demon's Souls, finalement, il y a peut-être un petit côté retour aux sources, notamment dans l'utilisation de la magie, tout ça. Enfin bon, après, je ne vais pas revenir dans les détails, mais le côté un tout petit peu plus speed, un petit peu plus nerveux, ça peut vraiment bien rendre. Enfin bon, après, c'est From Software, il y a peu de chances qu'il se merde totalement, même si, à force d'accumuler les épisodes, on peut aussi se demander s'ils vont pas finir par tourner en rond.
Oui, mais ils ont pas de tour de garde.
Non, ils ont pas de tour de garde, pas de boyard de guerre.
Donc ils savent pas où ils vont.
Non, mais justement, tu sais pas vraiment où tu vas. ça fait partie des charmes du jeu. Et d'ailleurs, il y en a qui ont bien compris que ça plaisait, puisque en fait, cette année, normalement, on devrait enfin voir débarquer Nioh, qu'on attend depuis. Je sais pas, c'est pas plus d'une
10 ans.
10 ans, ouais, je crois qu'il était annoncé. Ouais. Et a priori, qui prend des faux airs de Dark Souls ou de, ça a l'air assez nerveux, assez, j'allais dire presque réaliste dans les mouvements, mais disons que ça a l'air d'être,
de bien trancher, quoi, et d'être assez sympa. En tout cas, c'est un des trucs que moi j'attends pour cette année. Ça va être aussi le retour de Vanillaware, ouais. qui revient avec, bon, avec un remake d'Unsphere sur PS4, si je ne me trompe pas. Bon, ça déjà c'est sympa, mais qui revient surtout avec un jeu original, 13 Sentinels Aegis Rim, un truc comme ça.
C'est
Rim.
Ça.
Ouais, 13 Sentinelles.
Ouais, 13 Sentinelles, voilà. Dont on sait pas grand chose, si ce n'est que de toute façon c'est Vanillaware, donc c'est le genre de truc qu'on achète les yeux fermés, ne serait-ce que pour la direction artistique.
Ça aussi, c'est pas du tout subjectif. Enfin, je partage ton avis, sans
déconner, c'est tellement beau, quoi. À chaque fois, tu tombes par terre, quoi.
Je suis tout à fait d'accord.
Il y a Nier Automata aussi, je crois, qui fait frétiller plein de gens.
Qui fait frétiller plein de gens, notamment parce qu'on va y retrouver, enfin, on espère y retrouver, on va dire, l'ambiance de Nier et un système de combat un peu plus péchu.
D'ailleurs, c'est Platinum Games, si je dis pas de bêtises, qui
encore eux,
qui est encore en manette. Je sais pas comment ils font pour faire autant de projets.
Bah, ils les repoussent.
Ils les repoussent. Voilà.
ils sont en retard.
C'est comme Scalebound et Star Fox. Ouais.
Non, franchement, disons que ça se demandait si l'année 2016, c'est pas. Il n'y a pas vraiment un vrai retour de la scène japonaise, même en termes de blockbuster, je veux dire. Enfin, il y a aussi Persona 5. Il y a des choses qui vont arriver, qui vont être du lourd, quoi. Bon, bah après Street Fighter, même si
pas convaincu par Disney,
mais, ouais, pas des masses, mais
mec, il a lancé ça, tu sais.
Non, mais disons qu'il y a pas mal de jeux, on va dire, emblématiques et très typés japonais qui vont débarquer cette année. Et finalement, c'est peut-être pas plus mal, parce que pour l'instant, sur les consoles de nouvelle génération, enfin, ça veut rien dire nouvelle, ancienne, bref, sur les
consoles actuelles,
merci JM, on peinait pour l'instant un petit peu à les voir émerger, tous ces développeurs japonais. Enfin, pas tout à fait, mais. Mais voilà, ils n'étaient pas énormément représentés. Peut-être que 2016, ça va être l'année où ils vont un peu plus revenir sur le devant de la scène. Ouais. Mmh.
Mmh. Et 2016, c'est aussi. On a aussi l'attente de quelques retours oui. de franchises, oui. des suites ou des reboots. On verra comment. On verra comment ça se déroule. Mais il y a quand même quelques grands noms qui peuvent revenir dans l'année.
Ouais. Tu veux peut-être commencer, puisque on a du Deus Ex,
on a Deus Ex Mankind Divided. Après le super. Je sais pas si on peut. Voici reboot que nous avait déjà offert Eidos Montréal, alors que à l'origine, il y avait quand même quelques craintes sur ce que ça allait devenir, et finalement, le titre était quand même très très bon.
Excellent. Hein, ouais.
Voilà. Donc le prochain.
J'arrête pas de le dire.
Faudra que tu joues un jour.
Ouais, c'est ça.
Donc ouais, le prochain a quand même de bonnes raisons d'avoir pas mal d'espoir. On a le retour de Hitman aussi, avec un IO interactif qui a dit avoir bien enregistré les complaintes des joueurs suite à Hitman Absolution, que moi je trouvais quand même bon, mais qui effectivement n'est pas forcément... c'est un bon jeu, mais qui dans la lignée des Hitman a quelques petites errances. Donc personnellement, je suis assez curieux de voir ce qu'ils vont faire avec. Très curieux même, parce que Hitman, c'est quand même un peu un de mes jeux cultes. On a Dishonored 2. Hein, Dishonored 2, pareil. Le premier Dishonored, c'était un peu une tuerie. Je l'assume et je le défendrai jusqu'à mon lit de mort. Donc je suis fort, fort, fort impatient de voir arriver le prochain. Qu'est-ce que j'aime encore,
Mass Effect,
oui, bien sûr, Mass Effect Andromeda. Et là, ouais, la curiosité elle est scénaristique, quoi. Bon, après le tollé suscité par la fin de Mass Effect 3. Même ça, il y a de quoi faire tout un débat, mais je suis pas non plus à crier avec la meute en disant que c'est un scandale. Bref, peu importe, mais en tout cas, ne serait-ce que pour le scénario, je suis quand même extrêmement curieux de savoir comment ça va se dérouler, comment ils vont faire pour poursuivre une saga qui, vu sa fin, ne peut pas franchement être poursuivie.
Mais ils vont la relancer, quoi. C'est totalement autre chose.
Oui, c'est totalement autre chose, bien sûr. Mais justement, je me demande par quel bout ça va être pris et ce que ça va donner, quoi. Et comment tu fais pour reprendre
un univers cohérent
alors que tu ne peux pas reprendre la cohérence de ton univers de base, quoi. Quelque part. Donc, et puis ouais, ça reste une saga de RPG action sci-fi. Enfin, c'est un vrai, 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 vrai space opéra. Et ça, enfin, quand t'es amateur de SF, c'est quand même difficile de passer à côté de Mass Effect, quoi.
Ouais.
C'est même quasiment impossible, je dirais. Et là, tu vois, d'un coup, je vois un jeu que ça doit être toi qui l'as noté. J'avais complètement zappé. C'est Thimbleweed Park. Du coup, ah. Je vais pas te le piquer, je te laisserai en parler, hein, mais c'est vrai que je l'ai.
Bah, j'ai pas grand chose à dire, hein. C'est le nouveau de Ron Gilbert, c'est ça?
Exactement, ouais.
Ouais, le jeu d'aventure très 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 old school, puisqu'il reprend tout le design de Maniac Mansion, numéro 1.
Ouais, ouais, le design.
Les personnages, ouais, grosse tête, corps filiforme.
Et l'interface aussi, hein.
Ouais, l'interface. Je t'avoue que les jeux que j'attends pour 2016, j'essaie de pas trop regarder de quoi ça parle ou quoi que ce soit, juste vaguement, de loin, pour pas me spoiler. Donc,
ceci dit, il a pas dit grand chose de Thimbleweed Park, hein.
Ouais.
Si tu suis un peu, enfin, la dernière fois que je l'ai vu, il passait quelques images de dev, des gifs animés pour montrer un peu comment bougeaient les persos, mais il y avait pas énormément de choses, quoi.
Ouais.
C'était pas...
c'est une espèce de retour aux sources, quoi, mais vraiment assumé pour le coup.
Clairement.
Ouais.
Tout à fait.
Ouais. Bah, dans le genre jeu que je suis sans trop le suivre pour pas me spoiler, bah, y a Uncharted 4. Après avoir pratiquement dévoilé l'intégralité du jeu dans leur campagne de communication sur Uncharted 3, je me tiens un peu éloigné de tout ce qu'ils peuvent montrer sur le 4. Je sais juste que c'est un jeu que j'attends, que j'ai envie de faire, parce que j'aime la série.
Pour l'instant, je te rassure aussi, ils n'en disent pas grand-chose du scénario. Enfin, si, il y a eu quelques...
Ah, si.
Mais il y a de grandes chances que ce soit le dernier, c'est surtout ça qui est intéressant.
Quoi. Oui, après, le dernier avec Nathan Drake.
Ouais. Ça, j'ai vu.
Bien des façons différentes. Que tu viens de dire.
Je pense qu'ils le prennent bien des façons différentes. Ils s'ouvrent à tout, hein, de toute façon.
Ils changent d'identité, tout simplement.
Ouais. Non, ça, c'est possible aussi, en fait. Hein. Mais...
Est-ce qu'ils vont faire un reboot après?
Non, mais.
Nathan Drake plus jeune.
J'ai le droit d'émettre un avis ou ça va être considéré comme du spoil?
De quoi?
Moi, je m'en fous.
Moi, je pense qu'il va se ranger, faire des enfants et puis, je sais pas, attendre sa pelouse, quoi.
Ou il va crever.
Non, moi je crois à la pelouse. Moi je crois à la pelouse.
Oh, la pelouse.
Eh ouais, la pelouse.
Faire un crossover avec Plante versus Zombie.
Ah ouais, en fait c'est lui, Dev le Dingo. C'est possible. Tout est possible.
Ça serait horrible. Sinon, ouais, il y a quoi? Il y a comme retour, il y a Mirror's Edge aussi.
Mirror's Edge Catalyst, oui. Ouais, pareil, ça, qui suscite cool. Quand même bien des curiosités.
Bah, ne serait-ce que parce qu'on nous promet un monde semi-ouvert, quoi. Donc...
Et que ça a l'air d'être un peu le chaos quand même. Ouais. Donc, je sais pas. Il y a une attente et une appréhension. Un peu comme No Man's Sky aussi. Qui, moi, continue de me titiller un petit peu. Et en même temps.
Tu restes un peu circonspect.
Exactement, oui. J'ai genre quelques petites frayeurs sur ce côté. Le jeu qui va un peu tourner en rond. Mmh. Ou...
Ah, ça sera peut-être super contemplatif, hyper cool, tranquille, quoi.
Ouais.
C'est à se demander si toute la communication, toute la hype, pour ne pas reprendre ce mot qui leur a été donné, ne leur a pas fait du tort.
Oui, je pense.
En leur mettant une pression énorme dont ils se seraient peut-être passés.
Je pense qu'à un moment, quelqu'un est venu et leur a dit « Écoute, bébé, je vais faire ta com. » Que les mecs, ils n'ont pas forcément eu trop le choix et qu'ils sont peut-être un peu retrouvés dépassés avec des peut-être pas des promesses, mais en tout cas des engagements qu'eux ne sont pas nécessairement prêts à tenir. Quoi. Après, ouais, il y a des choses qui restent béton quand tu regardes le jeu. Mais il y a quand même certaines inquiétudes sur est-ce que ça ne va pas un peu tourner en rond et... Mais malgré tout, moi, j'ai quand même bien envie de poser les mains dessus. Quoi.
Moi, j'aime bien les expériences chiantes.
Ouais, enfin, là, en l'occurrence, si l'expérience est chiante parce que tu passes ton temps à visiter des mondes générés aléatoirement sur lesquels tu... fait que collecter des trucs et des bidules, au bout d'un moment, c'est pas...
Bah, tu sais, moi, je m'éclate sur Orchids to Dusk, juste, tu t'assois et t'attends la mort. Hein.
C'est une métaphore de la vie, c'est ça.
Bah ouais, c'est ça.
Ouais. Et dans les retours attendus, on en a oublié un gros.
Non, on en a oublié quelques-uns, ouais.
Bah, il y a Zelda, quand même.
Bah oui, quand même.
Zelda qui arrive.
Zelda Wii U.
Ça, c'est cool, quand même.
Ouais, franchement, moi, je l'attends quand même pas mal, même si c'est vrai que... les derniers Zelda m'ont pas autant emballé qu'un Zelda Wind Waker, par exemple. Cela étant dit, celui-là, ouais, je suis quand même bien curieux. Il m'avait vraiment tapé dans l'œil quand il l'avait présenté pour la première fois. C'était à l'E3, hein. C'était à un E3, je crois, si je dis pas de bêtises. Et
c'était pas au Game of Awards qu'ils avaient montré un truc? Ouais, je sais plus.
Non, je crois que c'était un E3, mais après lequel, je sais plus. Enfin bon, bref. Mais en tout cas, ouais, il m'avait quand même bien tapé dans l'œil. Donc, ouais, je l'attends aussi quand même avec grande impatience. Maintenant, on sait pas vraiment quand est-ce qu'il va sortir, mais Normalement, c'est en 2016.
Mais même pour les remakes, même si c'est difficile de classer là-dedans, il y a Ratchet & Clank, le retour de la licence, qui est quand même.
Oui, c'est vrai.
Alors bon, c'est pareil, ça suscite quand même quelques craintes, mais les épisodes de PS3 étaient quand même tellement excellents qu'il n'y a pas de raison que ce soit.
En fait, c'est pour ça que je l'attends, c'est parce que j'y ai joué sur PS2 et j'ai pas du tout suivi sur PS3. Je sais qu'ils sont excellents, mais j'avais autre chose à faire. Et du coup, c'est pour moi, comme il l'annonce comme un pseudo remake, pseudo reboot, pseudo. En tout cas, un nouveau point de départ pour la série. Et c'est ça qui me donne envie d'y jouer parce que je me dis, j'ai lâché l'affaire, je connais plus trop le scénario, donc ça va me permettre de me remettre, de repartir à zéro en fait.
Après, c'était pas tant le scénario, c'est ce qu'ils faisaient, tu sais, un petit peu à la façon Mario Galaxy, la façon de les intégrer, en fait, les planètes, de passer l'une à l'autre, et tout cet aspect, en fait, la nouvelle dimension qu'ils donnaient, en fait, à la plateforme, qui était intéressante sur ces épisodes-là. Vraiment, où tu sentais que la 3D, c'était plus qu'une simple feature, quoi. C'était vraiment le jeu était pensé en 3D. Enfin, ça paraît bête de dire ça, mais, c'était vraiment bien pensé en termes de level design.
Ouais, une cohérence avec le level design qui était très poussé à ce niveau-là. Ouais, tout à fait.
Après, il y a même des suites. Hein. Bon, bah, il y a Mafia 3 qui est toujours attendu pour 2016. Je sais pas si on y croit des masses, mais bon, ouais, voilà.
On verra.
Il y a Benjamin qui attendait chez nous Naruto Ultimate Ninja Storm 4. Ouais. Alors, j'avoue que j'ai un peu lâché l'affaire avec les Naruto, donc je sais pas trop où on en est, pour être tout à fait honnête.
Faut pas me demander.
JM, on en est où avec les Naruto?
Alors, je crois qu'il y a le Ultimate Ninja Storm qui va sortir, mais...
4.
Ok, 4 en plus.
Et puis...
Révolution. Il y en a bien un qui s'appelle...
Ah, il me semble.
Ouais, ici, on s'amusait à inventer la suite des titres.
Extrême Révolution.
Non, il y a Naruto Ultimate Ninja Révolution Bolchevique.
comme ça. Non, mais après, on va quand même citer aussi Quantum Break, une exclue Xbox One devrait sortir. On ne sait pas quand d'ailleurs exactement.
C'est un jeu Remedy, donc on ne sait pas quand ça sortira. Ça peut sortir dans 15 ans.
Mais non.
Je me souviens d'Alan Wake. J'ai passé la moitié de ma carrière à attendre la sortie d'Alan Wake.
Non, mais normalement, on est quand même vraiment pas loin de Quantum Break, même si effectivement après, bon.
Il y a eu des changements assez radicaux, il me semble. Ça.
On ne sait pas trop. Ouais. Enfin, là encore, il y a quelques craintes malgré tout, mais je pense que bon.
Bah, je pense qu'on l'attend plus pour le studio qui est derrière que pour le jeu lui-même.
Oui, il y a
je
ça.
Je pense
que
si c'était un jeu qu'on nous avait montré un peu comme ça, par un éditeur, un développeur autre, je ne sais pas si ça susciterait le même.
C'est vrai.
Là, c'est un jeu Remedy. Remedy fait peu de jeux. Donc, quand ils te disent on a un truc à vous montrer, là, tout de suite, tu deviens tout fou, quoi. C'est pas un studio qui déçoit. Donc,
faut toujours commencer par quelque chose. Hein,
oui.
Oui, il y a toujours une première fois à tout.
Voilà.
Quoique, le DLC de Alan Wake n'avait pas été. DLC pseudo-extension, là. Standalone American Nightmare ou je sais pas quoi. Il avait pas fait l'unanimité celui-là, par contre. Je sais pas si tu l'as fait, Dino.
Eh ben, là, tu vois. Je prends l'air de rien et j'essaie de m'en souvenir et je sais plus.
D'accord.
C'est donc si je l'ai fait, c'est qu'il est pas marquant. Hein.
Je pense qu'il était pas marquant et que tu l'as
fait. Je crois que je l'ai fait et que je m'en rappelle plus.
Non, c'était pas un DLC, c'était un
standalone. Ça, oui, ça je le sais, mais je suis incapable de me souvenir si j'y ai joué ou pas.
Ouais. C'est pas toi qui as fait le test.
J'ai fait le test d'Alan Wake. Je sais pas si je. Bah, si, du coup, j'ai dû. Ouais.
Bah,
je sais plus.
Aussi. Mais bon, bref.
Je m'en rappelle pas. Mais je suis vieux.
Ça, c'est vrai.
Je suis fatigué, moi. Il est trop long ce podcast en plus. Là. Moi j'en peux plus, je suis fatigué.
Allez, on accélère. On
a ouais, mais de façon, après, voilà, il y a quelques autres jeux quand même qu'on va citer.
Il y a Wild.
Il y a Wild, donc
de Michel Ancel.
Voilà, le studio de Michel Ancel qu'on avait vu, on en avait vu un peu plus. C'était quoi? C'était pour le.
C'était une soirée Sony.
Ouais. Ouais,
donc PlayStation Experience.
Voilà. Et c'est vrai que ça avait l'air quand même assez plutôt intéressant. Il avait quand même plus ou moins tapé dans l'œil à ce moment-là. Donc il y a peut-être quelque chose aussi à ce niveau-là. Et puis après, moi, d'un point de vue personnel, même si j'y joue quand même beaucoup, beaucoup moins qu'avant, l'extension de World of Warcraft, je l'attends toujours. Je sais que, enfin voilà, à chaque extension, je m'y remets de toute façon. Et je sais, bon, après, des fois, j'y joue que 3-4 mois et puis je m'arrête, mais. Voilà,
mais tu sais, ça se voit dans les stats d'abonnés de WoW, hein, d'ailleurs.
Oui, tout le monde fait ça de toute façon en ce moment. Mais c'est vrai que voilà, moi je l'attends quand même, même si effectivement, je pense que bon, il va pas non plus révolutionner le jeu. Je pense qu'ils en sont plus là, Blizzard. À essayer de
non, ils essorent les derniers qui les achètent encore, puis après ils passeront en free to play.
Non, mais surtout qu'en plus, c'est vraiment. Enfin là, voilà, ils veulent même plus communiquer le nombre d'abonnés. Donc, parce qu'on sait que. Voilà, je pense qu'ils sont plus ou moins vers la fin de vie du jeu. C'est une évidence, le jeu il a plus de 10 ans maintenant. Voilà, je pense qu'ils en sont plus vraiment à vouloir refaire venir énormément d'abonnés, mais ça reste quand même World of Warcraft, quoi. Donc voilà, moi je l'attends et je suis quand même relativement impatient. D'ailleurs, je voulais tester l'alpha là tout de suite là maintenant, et on peut pas parce que les serveurs sont fermés. Donc, vous aurez peut-être un petit quelque chose d'ailleurs sur l'alpha. Ben, j'ai dit peut-être. Voilà.
Bah, ouais. Moi après je sais qu'il y a des entre guillemets jeux de plus petite envergure qui enfin j'ai vite fait quoi, il y avait Rime, Bilo, Abzu
il va rire à chaque fois.
Abduction que j'avais bien aimé, que Abduction toi aussi que t'attends beaucoup, JM, je crois que tu l'avais même backé en fait, non?
Ouais, je l'ai backé, ouais, c'est le nouveau jeu de ceux qui ont créé Myst, donc des frères Miller de Science Studio, et ouais, normalement il sort cette année, donc ça me tarde d'y jouer.
Oui, il y avait aussi What Remains of Edith Fish, Finch. On sait pas grand chose du jeu. Moi, seulement ce qui suffit, c'est que c'est Giant Sparrow, c'est ceux qui ont fait
Swan.
Voilà. J'ai beaucoup de mal avec leur titre, mais j'aime bien ce qu'ils font.
Le peu qu'on avait vu avec quelque chose d'assez attrayant et attirant.
D'un peu atypique, un peu original, quoi. Donc,
ouais. Il y a Horizon qui sort, et Horizon Zero Dawn de. Comment s'appelle le studio? Zut, Guerrilla.
Guerrilla, oui. Ouais, c'est ceux qui font normalement les Killzone.
Ouais. Ouais, ça sort cette année normalement sur PS4, et ça a l'air sympa, le milieu. Le mix entre personnages. J'allais dire préhistorique, mais peut-être pas tant, mais univers avec des robots et des choses comme ça, ça peut être sympa.
Puis déjà, on sait que Guerrilla, enfin, maîtrise le hardware, enfin, je veux dire, ils n'auront pas de mal à nous sortir un truc techniquement bien. Le dernier Killzone avait divisé, on va dire, enfin non, il n'avait pas divisé, en fait, personne n'avait aimé sauf moi. Mais
tout le monde était d'accord pour dire que c'était beau.
Ouais, moi je l'ai trouvé aussi bien, mais visiblement je suis le seul, quoi. Mais je l'avais vraiment beaucoup aimé, donc raison de plus pour attendre ou pas.
Je sais pas là, du coup, moi ça me fait douter. Hein.
Et toujours sur PS4, il y a The Last Guardian qui doit sortir.
Enfin.
Cette année.
Enfin.
Peut-être.
On espère. Non, je pense qu'il sortira quand même. Il l'aurait pas montré si ils étaient pas sûrs d'eux, non.
Ouais, chaque fois que t'entends quelqu'un dire ça, t'as l'impression que c'est une blague pourrie.
Bah, c'est devenu ça, hein. C'est quand même c'est quand même l'archétype de la religion et du
Vaporware. C'est du running gag.
C'est ça.
Ouais.
Moi j'attends beaucoup StarCraft Ghost.
Ah ouais, on l'attend toujours celui-là, hein, ça c'est clair. Mais bon. Non, mais après, au-delà des jeux à proprement parler aussi, moi.
On attend de voir des choses se produire.
Ouais, moi malgré tout, la prochaine console de Nintendo, voilà, elle m'intrigue. J'ai quand même envie de voir, ce qu'ils sont capables de faire, surtout après la Wii U.
Ouais, t'es sûr que tu veux vraiment le voir?
Oui, je veux le voir. Non, mais.
Imagine une Wii U qui tourne sous Android.
Mais non, mais voilà, et encore une fois, ils sont vraiment décidément pas très doués en termes de communication pour essayer d'expliquer un peu ce que c'est comme console. Tu sais pas au début, on sait toujours pas ce que c'est exactement.
J'espère pour eux que quand ils la présenteront de manière plus habile qu'ils l'avaient fait pour la Wii U. Parce que moi, je me souviens de la soirée de présentation de la Wii U, où on se regardait tous en se disant de quoi ils parlent, qu'est-ce que c'est.
Ouais, mais c'est sûr que
ça se trouve, Anix c'est le code pour Next Wii U.
Non, mais faut espérer quand même qu'ils ont retenu la leçon. Donc,
la Wii Mi.
Donc,
la Wii Us.
La Wii U Mini. Bref, moi malgré tout je suis curieux d'en savoir plus. Après je vais pas dire que je vais sauter dessus, mais mine de rien ça reste quand même une console Nintendo, donc.
Comme ça reste une compagnie qui essaie des choses.
Oui.
Oui.
Tu te dis qu'est-ce qu'ils ont pu sortir. Voilà.
Exactement.
Bon, t'as eu la DS avec ses deux écrans, c'était quand même un peu assez inattendu. La 3DS. Voilà.
Elle marche bien.
Elle marche hyper bien, mais sa principale feature qui lui donne son nom,
oui,
elle sert à rien. Mais
bref. La preuve, ils ont sorti la 2DS.
Mais n'empêche que t'as eu ça. Bon, t'as eu la reconnaissance de mouvement. Bon, encore une fois, même si c'était un peu branlant de temps en temps, t'as quand même eu un essai. Du coup, c'est vrai que t'as une raison d'attendre de voir ce que Nintendo va faire.
T'es toujours curieux.
Par simple curiosité. Exactement. Qu'est-ce qu'ils vont apporter, qu'est-ce qu'ils vont tenter, et est-ce que ça va marcher ou pas, et est-ce qu'ils vont réussir à reconquérir un public qui parfois leur fait un peu faux bond dans les salons, en tout cas.
Ouais, tout à fait.
Et des éditeurs aussi. Bon, ça c'est toujours l'éternel combat pour Nintendo dans les salons, c'est de récupérer les éditeurs qu'ils ont perdus depuis moultes années déjà quand même.
Et puis il y a l'arrivée de la réalité virtuelle
dans tout autre genre. Ouais, ça, je suis pas sûr. Hein. Ou alors, moi, ceci dit que les actionnaires fassent énormément pression sur eux, mais bon. Le démarrage de la réalité virtuelle.
Commercial, en tout cas,
dans mon premier temps, clairement, de niche. Donc, on a vu récemment l'annonce du prix de l'Oculus Rift.
On a tous eu pleuré.
C'est une espèce de rêve qui s'est effondré après que monsieur Lucky nous ait promis un truc à pas plus de $400 depuis le début. Pour au final, donc en France, on rappelle, tout compris, il y en a pour 700€. Super.
T'as les frais de port pour 700€?
Ouais, je crois qu'il
C'est sans frais de port.
Sans frais de port, et il n'y a pas les contrôleurs qui sont.
Oui, et il n'y a pas les contrôleurs.
Voilà, donc voilà, c'est.
Et t'as même pas le sac à vomi.
C'est du vol. Non, après, du coup, ça a déclenché. Bon, évidemment, et tout le monde en parle, tout le monde donne son avis, mais de toute façon, ça sera un démarrage de niche. De là à prédire l'échec commercial de la réalité virtuelle en général, bon, il y a un pas, parce que là on parle que d'un produit. C'est le premier, ça reste le premier produit grand public. Je sais pas. On va avoir. Le prix du PlayStation VR, de ce que Sony proposera, du casque de Valve et HTC, qui a l'air quand même extrêmement prometteur aussi.
Ouais.
Et dans tous les cas, même si on reste dans ces tarifs-là, ça me paraît difficile de dire de condamner la réalité virtuelle en tant que produit grand public, parce que forcément les prix vont baisser au bout d'un moment. Ça va être extrêmement cher au lancement, mais les composants baissent.
Honnêtement, Dino, je sais pas si les prix vont tant baisser que ça. Je pense que c'est le matériel qui va être de meilleure qualité, mais que le prix va plutôt stagner dans ces eaux-là.
Non, parce mais que tu peux pas stagner à un tarif pareil, hein. Parce que là, moi j'ai vu des gens qui faisaient la comparaison en disant « Ouais, souvenez-vous, la PS3, à son lancement, elle coûtait 600€, c'était un truc de fou, personne n'en achetait, et puis personne ne voulait en acheter, finalement ça a marché. » La différence, c'est qu'une console de jeu, tu l'achètes, elle marche, c'est un stand-alone. À ce prix-là, un casque de réalité virtuelle, c'est un accessoire. Et t'en as pas besoin. T'as déjà une télé, tu peux jouer sur ta télé. Et en plus là, mon Oculus Rift, il faut rajouter le prix du PC, hein, ça, tout le monde l'a déjà dit. Donc non, moi je pense que les prix baisseront. Comme les smartphones, finalement, t'auras plusieurs gammes. Tu vas avoir les premières générations, le prix va baisser parce que ça coûtera de moins en moins cher à produire, fatalement.
Oui, d'accord.
Et t'en feras un produit accessible. Mais là on est sur des early adopters, quoi. C'est comme les premières télés à écran plat, ça coûtait un rein, quoi.
Première platine CD.
Oui, bah ouais,
c'est
on n'en est pas resté là. Tu peux pas t'attendre à ce qu'un produit de ce type sorte à un tarif hyper abordable. Mais maintenant, c'est clair que si ça reste dans ces eaux-là, ça va se planter. Parce que qui va claquer 700€ pour un truc qui, en plus, pour l'instant, n'a que très peu de jeux.
C'est ça le problème.
Parce qu'avec une télé ou un écran, tu joues à tout ce que tu veux. Avec un Oculus Rift. Ouais. Pour l'instant, tu joues pas à tout, quoi. Et en plus, tu sais même pas combien d'heures par semaine tu vas passer dedans.
Après, est-ce qu'ils ont besoin qu'il y ait des millions d'acheteurs pour que ce soit quand même une réussite commerciale? C'est pas sûr. Enfin, je veux dire, t'as des réussites commerciales qui réussissent sur un marché de niche quand même. Enfin...
Ouais, mais là, ça dépend ce que tu produis, quoi. Là, t'as quand même à l'intérieur, t'as plein de composants qui coûtent un peu cher. Tout ça, faut l'assembler. Ils vont pas s'amuser à l'assembler à la main pour en vendre 30 par mois, quoi. Voilà, la question c'est à partir de quel seuil ils vont réussir à gagner suffisamment d'argent pour se dire ok, on peut commencer à baisser le prix, et à partir de quand les composants qui sont à l'intérieur seront un peu plus rentables et que tu pourras un peu baisser les tarifs, quoi. Mais ouais, ça sera le début de la VR, peut-être, c'est même pas dit, mais ça sera un début timide, ça sera un début de niche.
Après, comme la 3D au cinéma.
Non, après faudra voir,
j'espère
aussi
que ça sera mieux que la 3D au cinéma, parce que sinon
il faudra aussi voir les prix qui seront proposés par les autres. Parce que, enfin, je vois mal, par exemple, Sony proposer son casque
plus cher que sa console, par exemple.
C'est ça, quoi.
Enfin, beaucoup plus cher. Enfin,
beaucoup plus cher que sa console.
Ce sera plus cher, je pense, que malgré tout. Enfin, quoi que je sais. Je sais pas s'ils avaient communiqué là-dessus, mais effectivement, en tout cas, oui, comme tu le dis, le PlayStation VR à 700 euros.
Ça fait deux PS4.
C'est
ça,
voilà, je les vois mal quand même faire ça.
Voilà.
Mais bon. C'est vrai que ça va être quand même la grosse interrogation de cette année, parce que c'est vrai que c'est le next step en matière de, entre guillemets, en matière de vidéoludique. On va dire que même si ça reste qu'un accessoire, c'est peut-être quand même quelque chose qui va, entre guillemets, peut-être pas révolutionner, mais apporter quelque chose de nouveau réellement.
Et dans les acteurs, faut pas oublier Nvidia aussi, hein, qui a son projet qui est un petit peu à part et dont on parle moins souvent, qui est une espèce de projet comment dire, collaboratif. Ouais. En gros, il propose une plateforme clé en main et d'avoir des partenaires qui produisent des casques par ailleurs. Voire même la possibilité de le fabriquer toi-même, parce que si je ne dis pas de bêtises, parce que je viens d'y repenser d'un coup, il propose de livrer les plans de casques.
Ah, c'est possible.
Les monter toi-même.
C'est Nvidia ou Razer ?
C'est Razer, pardon, c'est Razer, pas Nvidia.
Ouais, parce que Nvidia, ouais, ils étaient... Ouais. Ils avaient fait un événement et il y avait Oculus et d'autres.
Oui. Autant pour moi.
Ou Valve,
ouais. C'est le côté vert, là, j'ai confondu d'un coup.
Ouais, c'est Razer. Ouais. Ouais.
Donc, ouais, ça sera une des grandes interrogations. Et top ou flop ?
On verra.
On top verra. Pour le prochain bilan, l'année prochaine.
L'année prochaine.
Ouais. On verra si on s'est gouré ou pas.
Ouais.
Bon, on a pas prédit grand chose.
C'est parce qu'à force de prédire des conneries, t'apprends, tu te dis, moi, je prédis plus rien maintenant.
Voilà, exactement.
Je me tais. Je fais que des bilans.
Voilà. Comme ça, on a toujours raison.
Exactement. Tu ne te mouilles pas. Mais hein, quelqu'un veut ajouter quelque chose ?
Non, je pense que non.
Je pense qu'on a fait le tour. Hein. C'est une bonne année qui nous attend quand même. Il y a énormément de jeux qui vont sortir.
Ok. Eh bien, ma foi, en route pour 2016.
En route.
Bonne route !
Merci à tous.
Salut.
Salut.
Ciao.
À bientôt. Ciao.